Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 23 février 2008 et il est midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, DVD et interview.
Suivi de...
Ça c'est du sport sorti de l'infirmerie, les résultats sportifs.
Et ensuite
à 15h du reggae avec, à 15h, avec Zarma Farai par Poupa Christopher. 17h, CS c'est de la bonne viande qui reçoit un groupe de rock, un groupe de rap, pardon, excusez-moi. 18h, Big Bang, 19h, Happy Hero, 20h, la CTO Experience, 21h30, 9 Love, et à 23h du live avec le potager. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Tu vas bien?
Oui, parfaitement. Génial. Météo génial, il fait beau, c'est super.
C'est super, c'est magnifique. Du sport et traîne son cosplay de Dr House. Pas mal du tout d'ailleurs, hein. Plutôt réussi.
Ouais, alors là c'est un spécial cosplay, une espèce de medley, donc, puisqu'il a de la casquette de l'AS Roma, les chaussettes du FC Barcelone, c'est quoi le t-shirt? C'est une veste hélas véronois, d'accord, Vérone.
Sans compter la clope de Mike Hammer.
Cash.
Voilà, zou. Aujourd'hui donc un spécial love et amour. Alors pour commencer tout de suite, de love et de l'amour. Un frac comme présente Three Jazz Quiet Night. Il s'agit de la version de Nicolas Conte, Out of the Cool.
Between me and you.
en ouverture de ce supplément week-end. Axé autour du love, de l'amour, du glamour. Infracom, Quiet Night, Nicolas Conte. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on a une interview que l'on va diffuser tout à l'heure de Chaiko, que l'on a rencontré lors du festival d'Angoulême, qui est un dessinateur chinois, grâce à la complicité de nos amis des éditions Chiaopan, pour un bouquin tout en love, tout en fragment, et tout en Shanghai, pardon, love fragment Shanghai, c'est Chiaopan, donc de Chaiko, on en parlera tout à l'heure, donc ce sera l'interview de cette émission. Il y aura deux chroniques cinéma aujourd'hui, non pas une mais deux, c'est-à-dire que j'ai été un petit peu léger.
On vous souhaite. Cette...
J'ai été léger en bande dessinée là, donc voilà. Et pour du sport, je n'en sais trop rien.
Comment ça?
Bah, je sais pas, t'as de la téloche, beaucoup.
Oh oui, pas mal. Mais par contre, c'est des séries qui sont pas du tout love du tout, quoi. Alors, pas du tout. Non.
C'est une honte. Ceci dit, il y a Thomas qui me fait des grands gestes en me disant téléscripteur, ok, c'est parti. And now, the news. Le flash spécial vous est présenté par Thomas. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour Xavier. Tu fais l'intro, tu es censé présenter... Non, on s'en fout.
Non, on s'en fout.
Ouais, donc en fait, hier, on s'est aperçu, en préparant l'émission tout à l'heure sur MSN, qu'il y avait donc...
J'adore, pas MSN.
Voilà, il y avait eu la cérémonie des Césars hier, et comme nous parlons de cinéma, nous devons de parler des Césars. Alors, qui ici a vu la cérémonie?
Moi, mais j'ai zappé au bout deuxième tiers.
Ah, moi j'ai vu un bout parce que le resto diffusait la cérémonie. Mais ils ont mis le match du Stade français à la place. Donc j'ai vu comme bout.
Ah bah ouais, bah tu m'étonnes, ça devait être plus intéressant.
quand même.
Alors attends,
je
retrouve mes feuilles pour.
En robe, il était en robe.
Antoine
Decaune. Et il fait Antoine Decaune.
Et oui, fait, mais enfin bon, il a changé tout.
Bonjour
ça,
Emma, bonjour papa. C'est avec le regard du style, oui. C'est pas mal.
Alors, on retrouve nos feuilles. Alors, ceux qui ont
Il faut remarquer là que c'est quand même la nana qui a obtenu le prix d'interprétation et tout. C'est quand même la nana qui a piqué le mec de la fille à Decaune, quoi.
Marion Cotillard a piqué le.
Et oui.
Et alors, elle est avec qui alors, Marion Cotillard? C'est Sinclair?
Ah, bah oui.
Ah, je savais pas du tout. Oui. Je crois qu'il est toujours. Ah, ok, t'es vachement plus au courant que moi sur les potins, toi, tiens.
Et ça reste en musique. Bah,
j'ai une femme qui m'aide bien aussi, il faut dire.
D'accord.
Ouais, qui regarde la nouvelle star.
Et puis, non, il faut regarder E-News, quoi, tous les jours.
Ok.
Alors,
on recommence.
Bon, les quoi, c'est quoi les récompenses? Alors, la graine et le mulet, Abel Latif qui chiche, Marion Cotillard, Mathieu Amalric, oh, et puis de toute façon, on s'en fout. Allez.
Bah attends, mais ouais, il est si, bien l'album.
Le meilleur documentaire pour le Barbet Schoeder là.
L'avocat de la terreur.
L'avocat de la terreur, ouais. Pas mal quoi. Quand
pas
même,
mal
quoi.
Du tout. Ouais.
Hein, sinon, bon bah ça reste comme puis, c'est d'habitude. Hein.
Et puis la môme,
on
n'en
dira pas plus, je pense. Quoi.
Mais non, la môme, c'est quand même un très bon film. Il y a aussi le dessin animé, quand même Persepolis. Qui est vraiment très bien. Tu l'as vu toi?
Non, et toi?
Non, du sport?
Non.
Bon, qui c'est qui a vu la môme? Non.
Pas tous merci. En même temps, merci.
Scaphandre et Papillon non plus. Ouais, merde. C'est pas qu'on s'en fout pas, c'est qu'on n'a pas vu les films. Alors on s'est dit ici dans cette émission qu'on parle pas des trucs qu'on n'a pas vu. Alors voilà, on arrête d'en parler.
D'accord. Ouais, je suis bloqué dans mes fonds sonores, c'est pour ça qu'il y a un blanc. Excusez-moi.
Non, mais c'est bon, je peux meubler alors, hein, parce qu'on peut aussi dire que bon bah, mais ça, ça date pas de cette cérémonie, hein, mais ça date d'il y a très très longtemps. Hein. Bon, déjà, ça marche comme pour les Oscars, hein, c'est-à-dire que c'est les professionnels, la profession qui votent, et qu'en plus, au niveau des sélections, il y a déjà une présélection qui est faite, dont on élimine généralement les films de genre, quoi. Et donc rien que pour ça, bon ok, hein, on va dire que on délaisse un petit peu ce genre de scène.
Le sketch des guignols était très bien. Reviens vite,
ouais,
j'ai fait des
normal.
Reviens vite, j'ai fait des pattes.
Non mais par contre, si vous voulez un peu voir comment fonctionne le système de vote des Césars, de toute façon ça transparaît tellement que tout le monde l'avait compris. Si vous avez regardé l'émission de Tadei ce soir ou jamais, c'était jeudi soir. Il y avait les deux invités qui étaient en direct, c'était vraiment pas n'importe qui, c'était Jean-Jacques Hano et Luc Besson. Et Luc Besson a donné son témoignage pourquoi il allait plus au César. Bon, c'est une palissade, hein, c'est que c'est pas on remet le prix au plus méritant, c'est on remet le prix à celui qui il pense qu'il est prêt à recevoir. Si oh non, pas lui, il est trop jeune, lui il a déjà eu l'année dernière, on va essayer de disperser un peu.
Tu seras en train de dire qu'il y a une autre récompense qui a exactement le même âge, qui fonctionne suivant le même principe?
Ah oui, j'ai pas dit que les Oscars étaient mieux. Hein.
Non, je parlais d'Angoulême.
Ah.
Bon, allez, les sorties bande dessinée. Come on, y'all, let's rock. Jean-David Morvan au scénario, Sylvain Savoya au dessin, Altogo, c'est le quatrième tome de cette série qui en comportera 5, il s'appelle SMS République et est sorti pour le festival d'Angoulême, toujours chez Dargo, et on y retrouve donc la fine équipe de l'Europolis, la section spéciale numéro 4, où une vague de violence fanatique secoue l'Union Européenne aux quatre coins. Des foules se forment spontanément et attaquent brutalement les médias, allant de l'incendie de bureaux, de journaux, le saccage de studio jusqu'à l'assassinat. Bref, la situation pourrait vite tourner à l'émeute généralisée si on ne trouve pas rapidement qui manipule et qui attise ses braises. Car il y a bien quelqu'un derrière ces démonstrations brutales, quelqu'un qui envoie des vagues de SMS à travers toute l'Europe avec des bribes de réflexion sibyllines, des interrogations ouvertes, promptes à déchaîner des flash mobs particulièrement violentes. L'équipe d'Altogo remonte la piste de ces destructeurs messages courts dans le berceau de la démocratie, Athènes. Et donc ces flics d'intervention hyper entraînés vont devoir essayer de couper la source de ces messages de Discord. Mais qui sait ce qu'ils vont trouver en face? Un doux illuminé? Ou une secte surarmée prête à instaurer sa petite dictature dans un bain de sang? Si la démocratie semble être en danger, on ne peut qu'en dire autant de la couverture de Sissier, qui a endossé l'identité de son frère Al au début de la série pour découvrir qui a tenté de le tuer. Le jeu devient de plus en plus dangereux, c'est une fois de plus l'usage de médias, de la rumeur et du fanatisme qui intéresse Jean-David Morvan dans notre société actuelle. Un thème qu'il a déjà abordé avec brio dans le quatrième tome de la série Reality Show, chez le même éditeur. Et là aussi, le scénariste arrive à mélanger action, polar, humour, sentimental sur plusieurs niveaux de lecture sans qu'on ait une impression d'artificialité. N'en déplaise à Alain Fiquiel-Crott, même les bandes dessinées très populaires ont d'indéniables qualités artistiques et apportent un message politique. Tout en remettant la philosophie à sa place, des mots. Et les paroles s'envolent, les écrits brûlent. Altogo, tome 4 sur 5, SMS République, Jean-David Morvan au scénario, Sylvain Savoya au dessin, c'est chez Dargo. Quant à la référence à Alain Fiquiel-Crott, disons que c'est un philosophe un peu passéiste dans Libération qui dit que la bande dessinée c'est bien mais c'est pour les gamins, voilà. Et dont la CBD a voulu faire paraître un droit de réponse dans Libération, et Libération a dit fais les genoux. Oui.
Ouais, je rappelle quand même que dans les années 50, un certain Jean-Paul Sartre avait également écrit beaucoup de textes contre les comics américains qui devaient envahir et faire dégénérer notre jeunesse.
Ouais, il a pas tort, hein.
C'est vrai qu'il était connu pour être opposant aux comics. Hein.
Tabon à Pierce, c'est Timothy Lieb au scénario et un français, Philippe Brionne au dessin. White Tiger, le premier tome s'appelle L'instinct du héros. C'est sorti chez Marvel, Panini Comics, c'est-à-dire c'est sorti aux États-Unis chez Marvel et en France, la traduction est chez Panini. encore un reboot pour un super-héros. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ avec « Oh, j'ai des pouvoirs !»« Oh, mais il faut que j'ai une motivation !»« Oh, mais il faut que je construise mon personnage !» Oh, il faut que je trouve ma garde-robe, le costume et les premiers démêlés avec la justice des humains normaux. Après tout, un justicier, hein, c'est une justice d'exception. La Civil War de l'univers Marvel a permis de bousculer tous les super-héros de la mythologie Marvel, les faire se dresser les uns contre les autres. On sait déjà que la plupart ont dû révéler leur identité civile aux autorités, que d'autres sont rentrés dans une sorte de résistance, que d'autres encore, comme Daredevil, se sont retrouvés en prison. Or, la mise en cause de l'avocat Matt Murdock comme la personne sous le masque de Daredevil, c'était justement le boulot à plein temps d'Angela Del Toro, enquêtrice du FBI. Et les justiciers masqués, c'est une histoire de famille, puisque son oncle Hector était le fameux Tigre Blanc, un justicier des années 70, un lutteur au pouvoir surhumain grâce à des amulettes mystiques de jade issues de vieilles légendes. Et alors que ces amulettes étaient sous scellés, quelqu'un les a sorties d'un coffre fédéral et les a expédiées à Angela, comme ça, par la poste. Pourquoi, dans quel but ? Angela fera ce que sa famille lui aurait vivement interdit. Prendre la suite de son oncle et devenir, elle aussi, White Tiger, au mépris de la loi qu'elle a elle-même fait appliquer. Drôle de destin pour une ancienne agent du FBI qui était employée à justement mettre à l'ombre tous ces super vilains, super humains, mutants, justiciers masqués, que d'en devenir une elle-même. Devenir une justice d'exception en ces temps troublés où la lutte contre le terrorisme permet toutes les lois d'exception. Allez, bon, ce n'est pas vraiment le personnage du White Tiger qui est intéressant, plutôt convenu, mais la situation des événements après la Civil War. Dans un climat de défiance générale, aussi que bien évidemment la construction du personnage, la découverte de ses pouvoirs et la constitution de sa garde-robe. White Tiger, un justicier qui a été créé en 1970, était l'un des premiers super-héros noirs. C'est aussi, on dit afro-américain. C'est aussi l'un des schizophrène puisque ce nom a été porté plusieurs fois et qu'on en est à sa quatrième incarnation, que le fameux oncle était le tout premier. Mais, puisque les allumettes d'origine africaine sont devenues asiatiques, parce que bien évidemment, le tigre est un félin asiatique, qui est totalement absent de la corne d'Afrique. Les ennemis aussi sont eux aussi des réincarnations, des reboots de super méchants de Daredevil, comme le Cobra. Mais à part lui, il manque encore singulièrement de venin pour être réellement terrifiant, et comme le Cobra n'est qu'un super vilain complètement secondaire, la série quand même n'est pas tip top. Thomas,
Moi, j'ai trouvé un peu gros le fait que justement dans la famille de la nana, ils soient tous flics et spécialistes en arts martiaux. Bon, ça tombe bien.
Oh, c'est pratique.
Et après, il y avait un autre truc qui m'avait amusé. J'en parlais avec Xavier avant, c'est que justement comme elle a un costume blanc et qu'elle est super bien gaulée, il y a tout le monde qui pense que c'est Emma Frost au début. Oh, c'est Emma Frost. Non. Assez rigolo. Ouais. Mais après, moi, je dois dire que je me suis arrêté dans la lecture et j'ai passé à autre chose parce que moi j'ai pas trouvé grand chose d'original là-dedans.
Il est pas super, hein. Voilà. Sans vraiment le personnage secondaire. Tamora Pierce, qui est d'ailleurs auteuse de romans. Timothy Leeb au scénario. Philippe Brion, qui est un dessinateur dont on a galopé après tout le festival d'Angoulême et qu'on n'a pas eu.
Surtout qu'on a pas eu, c'est qu'il est pas venu.
Voilà. White Tiger, le tome 1 s'appelle L'instinct du héros. C'est dans la collection Marvel chez Panini Comics. Chaiko Love Fragments Shanghai, ça vient de sortir chez Chiaopan, donc c'est une traduction d'une bande dessinée plutôt originale d'ailleurs, elle est sortie en Chine un peu sur le tard, alors qu'au départ elle était prévue pour sortir en album. Et ça se passe dans la nouvelle haute société de la Chine actuelle, celle des chefs d'entreprise et des cadres de multinationales. Lily est une femme jolie qui a réussi financièrement. Pas vraiment pour ce qui est de sa vie amoureuse. Elle va croiser Win, une jeune top modèle qui est en plein déboire amoureux avec Diane, qui est son ancien photographe. C'est dans cet univers à l'abri du besoin où l'esthétisme et le raffinement sont parfaitement accessibles pour des portefeuilles d'exception que les cœurs se fendent faute de pouvoir réellement avoir d'accroche. Ils sont jeunes, ils sont riches, ils ne sont pas heureux. Des destins dignes de sitcom, mais avec un cadrage cinématographique loin d'une production effrénée de télévision. C'est surtout par l'image qui construit qu'on remarque l'œuvre de Chiaiko. Un dessinateur nouveau venu de la bande dessinée, mais qui a un sérieux background dans l'animation. Et ça se sent par le découpage des planches, la mise en scène très épurée et les couleurs très saturées. La partie du livre confirme ce que l'on savait déjà, Chiaiko aime vraiment les femmes pour les dessiner aussi bien. Chiaiko, l'auteur de Love Fragments Shanghai, donc qui vient de sortir chez Chiaopan, on l'a rencontré lors du festival d'Angoulême, une interview qui a été menée donc au Mars Attack avec la traduction simultanée de Yann Keruel.
Chiaiko, ni hao.
Ni hao.
Ni hao, ni hao.
Quel a été votre parcours ?
J'ai
étudié la peinture classique chinoise, donc c'est ce qu'on voit avec les paysages et la peinture à l'encre, et donc ça s'appelle l'illustration classique dans son domaine. Vous travaillez aussi dans l'animation ?
Ouais,
j'ai aussi une maison, un studio d'animation qui produit des dessins animés et des courts-métrages.
C'est de la sous-traitance ou des œuvres originales que tu réalises par toi-même.
Pour ce qui est de la bande dessinée, c'est moi qui fais tout c'est un travail perso. Pour ce qui est de l'animation, c'est un travail de studio, donc il y a parfois de la sous-traitance aussi. Ouais.
Love Fragment Shanghai, est-ce une BD que vous avez créée pour le marché international ou est-ce que ça a été publié en Chine également?
Non, c'est certainement pas une bande dessinée qui a été dessinée pour le marché chinois. C'est pas du tout la cible, c'est pas du tout le public. Non, c'est pas une BD qui est sortie en Chine.
Est-ce que tu l'as fait pour directement pour être publié en album ou est-ce que tu comptais le pré-publier dans un magazine féminin?
Dès le départ, l'objectif c'était quand même de faire un bouquin, même si très rapidement c'est sorti dans les magazines en prépublication. Je l'ai fait dans l'esprit de faire un bouquin, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté pour faire d'autres choses. Du coup, la publication en magazine s'est arrêtée aussi et a pas repris. Et par la suite, je me suis dit autant faire un bouquin maintenant que c'est arrivé à ce niveau-là. Donc je vais finir le contenu et on va essayer de faire un bouquin avec.
C'était des magazines pour quel pays et pour quel public?
On parle là de magazines qui sont exclusivement destinés au marché chinois, donc il y a aucune débouchée à l'étranger pour ce type de BD à sa connaissance. Donc c'est des magazines qui sont destinés à un public assez adulte et c'est des magazines qui sont très très peu nombreux en Chine, donc il y a très peu d'opportunités de sortir ce type d'histoire.
Dans sa forme, votre bande dessinée est une suite de cadrages cinéma en 16/9. Est-ce que vous pensiez réaliser cette histoire au départ en animation?
Quand j'ai commencé ce bouquin, je suis arrivé à la moitié j'en ai fait un dessin animé, donc il y a déjà un dessin animé qui existe à partir de ces quelques planches. Et c'est vrai que j'ai toujours eu dans arrière-pensée le fait que ce soit effectivement un script ou un storyboard pour éventuellement faire un dessin animé après. Et en fait, je suis tout simplement passionné de cinéma et c'est vrai que j'aime bien ce sentiment d'avoir des plans qui ressemblent à des plans caméra. Et c'est quelque chose que j'avais envie aussi de retransmettre dans la BD pour que les lecteurs ils se sentent comme un peu dans un film.
On en retrouve en effet le surcadrage vraiment propre au cinéma en fait. Et votre style est très clean, très lumineux, très classieux. Quelles sont vos références picturales?
Mes principales influences viennent surtout du cinéma d'animation, donc plus que du cinéma classique, donc forcément j'étais énormément influencé par Ghibli, par les productions des studios de Ghibli et beaucoup d'autres choses qui se font aussi au Japon, dont les longs métrages un peu moins connus des studios Ghibli qui parlent beaucoup de la vie courante. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans mes influences au niveau de la bande dessinée, c'est surtout des auteurs qui traitent des sujets très sur la vie des gens et pas vraiment qui touchent beaucoup moins au fantastique, donc l'auteur de Touch par exemple, ce genre de choses.
Pour nous, Européens, l'histoire semble un peu banale parce qu'elle a plusieurs fois été traitée en bande dessinée. Mais en Chine, est-ce que c'est une nouveauté pour les lecteurs et comment, comment elle a été perçue justement par tes lecteurs ?
Oui, donc ce type d'histoire-là, on la retrouve beaucoup en roman, en Chine, mais en fait très très peu en bande dessinée. C'est quelque chose qu'on voit jamais en fait en bande dessinée en Chine. Et j'ai eu un retour des lecteurs par internet en fait, parce que en même temps que ça a été publié dans les magazines, il y a eu aussi une publication sur internet, donc avec un retour direct possible des lecteurs, et qui était visiblement plutôt agréablement surpris, parce que c'est un thème qui est jamais traité en bande dessinée en Chine presque.
C'est assez étrange puisque l'histoire en fait on a l'impression que ça a été l'histoire la plus universelle possible pour être exportée le plus facilement. On a surtout l'impression que ça vous a servi de prétexte pour décrire des ambiances très chic et assez érotiques.
En fait, c'était pas. Enfin, j'ai pas fait cette histoire. L'orientation qu'elle allait prendre, au rebondissement qui allait se passer. Forcément, c'était juste pour parler de la façon dont les auteurs posent leurs sentiments sur par écrit ou avec un stylo, avec un crayon. Donc c'était juste une façon de reproduire des faits qui sont complètement universels, dans le sens où c'est complètement banal en fait, les histoires qui se passent à l'intérieur, mais c'est juste pour parler du fait que des fois on a besoin de poser par écrit certaines choses, et donc c'est pas une orientation, c'est pas une histoire que j'ai écrite pour qu'elle prenne une certaine orientation. C'était vraiment juste pour poser par écrit. Je vois une super jolie fille, pour m'en souvenir, je la dessine, et c'était juste une façon de poser des sentiments assez directement sur le papier, sans effectivement trame scénaristique vachement évoluée.
Chaiko, merci beaucoup.
Si, Chaiko.
Merci pour cette interview.
Donc Chaiko, que l'on a interviewé lors du dernier festival d'Angoulême, une interview qui a été traduite en simultané. On remercie beaucoup Yann Keruel. Vous avez entendu donc pour le doublage, et donc c'est pour Love Fragments Shanghai chez Chiaopan. Thomas, graphiquement il est beau.
Ah oui, ça tabasse.
Ouais. On n'accroche pas forcément au scénario, mais rien que pour la partie artbook à la fin, ça vaut le coup.
Oui, d'ailleurs, du se jeter un œil.
Non, mais j'ai pas vu la fin, là.
T'as pas vu la fin?
Non, j'ai feuilleté un petit peu, quoi.
Je crains malheureusement qu'on ait un album à offrir.
Ah ouais.
À faire gagner.
Pas mal.
À faire gagner. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet de l'émission Supplément Week-end. Tapez supplément week-end dans Google, vous tombez supplément week-end FMR ou supplément week-end MP3, vous tombez dessus. Si vous écoutez en podcast, eh ben vous avez le lien vers l'émission de la radio, et vous laissez une question à l'équipe. Il y a une partie poser une question au supplément week-end. Allez-y, cliquez dessus, posez une question. Et si vous êtes pris la semaine prochaine, eh ben on passera votre question à l'antenne, et du coup
et on y répondra surtout.
On y répondra et en plus vous gagnerez le bouquin, voilà. Qui, grâce à une erreur de manie de Chiaopan. Donc voilà, on se retrouve à offrir. Midi, 29 minutes et 42 secondes. J'ai pas envie de passer de pub. Allez, un petit peu d'amour. Jeanne Chéral, si tu reviens. On parlait de SMS tout à l'heure, on parlait d'amour. Bah voilà, c'est le cas.
Si tu reviens, j'annule tout. Nos écarts de langage, nos colères, nos passions de passage. Si tu reviens, j'annule tout. Tu sais bien, tu reviens, j'annule tout. Je ne vivais que dans l'errance, le jour où je t'ai rencontré, chevauchant des protubérances aussi diverses que variées, et j'étais comme un cochon qui danse. Par très joli à regarder. J'ose l'avouer, mon existence faisait moins envie que pitié. Oh mon amour, ta seule présence a tout en moi fait basculer. Mon désir de toi fut si dense que dans mes bras tu es tombé. Si tu reviens, j'annule tout. Nos éclairs, nos orages, mes plateaux de fromage. Si tu reviens, j'annule tout. Tu sais bien, tu reviens, j'annule tout. La vie à deux, lorsqu'on y pense, est un vrai cirque, un vrai guépier. Comment donc tenir la distance dans ce marathon trop piégé? Souviens-toi, nous faisions bombance de nos corps à l'autre dévoués. J'oubliais les protubérances qui m'avaient longtemps sustenté. Alors pourquoi ce lourd silence sur notre amour est-il tombé? Entends, c'est pour toi que je lance cet appel à demi. Si tu reviens, j'annule tout. Mes cafards, mes outrages, autant que possible mes dommages. Si tu reviens, j'annule tout. Tu sais bien, tu reviens, j'annule tout. Tu sais bien, tu reviens.
Jeanne Chéral, si tu reviens, une chanson que elle a écrite après donc l'affaire des révélée par les journalistes du Nouvel Obs, puisque c'était sur un SMS de Nicolas. Je tiens à signaler que les journalistes sont toujours d'ailleurs auditionnés, et normalement tout à l'heure c'est Cécilia qui sera auditionnée. Voilà, on n'en sortira pas. Entre hier la cérémonie des Césars où il était lourdement question d'italienne. Ça n'a pas arrêté. Thomas, on reste dans l'amour?
Oui.
Amour éternel? La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Et oui, il est question d'amour aujourd'hui avec John Rambo. Non, je rigole. Sweeney Todd. Attends, je remets.
Je suis incapable de le prononcer.
Je remets, mais oui, toi tu disais Sweeney Dog, c'était marrant. Ouais. c'est Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street.
Barbier.
Nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Squall, Sacha Baron Cohen. Que du bon. Emprisonné à tort pendant 15 ans par le juge Turpin, qui convoitait sa femme, l'enculé, le barbier Benjamin Barker est de retour.
Putain, je suis mal rasé.
Sous l'identité de Sweeney Todd, obsédé par la vengeance. Ah, t'as un net ton rasoir, d'accord. Il s'associe à la boulangère Madame Lovitt pour monter une fabrique de tourtes aux humains. Et aide le jeune Anthony, amoureux de la fille de Barker, Johanna, prisonnière de Turpin. Alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'une comédie musicale de Stephen Sondheim. Alors, pour une fois, excite Danny Elfman, hein, puisque c'est Stephen Sondheim qui fait lui-même la bande-son du film.
Ouais, qui avait créé la comédie musicale et qui avait également créé avec quelqu'un dont je me rappelle pas le nom, le livret de West Side Story.
D'accord.
Avec Bernstein et tout ça, quoi.
Ok. Alors pour une fois on échappe à Danny Elfman sur avec Johnny Depp à l'image et Tim Burton à la caméra, hein, avec ses les ouh. Et alors bizarrement, moi pour ma part, c'est le meilleur film de Tim Burton depuis Ed Wood, précédent film où il s'était passé des services de Danny Elfman. Est-ce une coïncidence? Alors il faut savoir que sur Ed Wood, pourquoi Danny Elfman n'avait pas fait la BO, c'est parce qu'ils s'étaient brouillés tous les deux sur en ayant travaillé sur l'étrange de Monsieur Jack.
Ah non, Jack.
Et sur Ed Wood, justement, c'était Howard Shore, la moitié de Cronenberg qui avait fait la BO. Et ensuite, le retour de Daniel Elfman s'est effectué sur Mars Attacks. La BO était absolument géniale. Et c'est vrai que entre Ed Wood, pour ma part, et ce film Sweeney Todd, on peut quand même dresser la liste des films qui étaient soit des déceptions, soit des navets, soit des films où ils se répétaient un petit peu. Parce que si on fait le listing, donc il y a Mars Attacks, Sleepy Hollow, qui était sympa, mais bon, on peut pas dire que c'était...
C'était juste un film, un bon hommage à la Hammer, et Burton, de toute façon, c'est un bon réalisateur, il y a pas de problème, quoi.
Ouais, mais après, quand tu sors du film, comparé à d'autres monuments qu'il avait fait avant, tu disais, bon, c'est bien, mais...
C'est bien, mais voilà. Bon, sans plus, voilà.
Voilà. Bon, la planète des singes, on va passer sous silence, hein, pour Tim Burton. Big Fish.
Quelqu'un a vu ma serviette chaude?
Big Fish, c'était une relecture. tout le monde avait dit, Burton est devenu papa, il s'est marié, c'est le père de l'homme rangé. Donc Big Fish, c'est le mec qui s'arrête, qui arrête de chercher et qui fait un retour sur sa carrière avec plein d'autocitations. Big Fish, pour ma part, par la fin qui était vraiment touchante, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Noces Funèbres, c'était un film d'animation sympa aussi, mais sans plus aussi, puisque c'était quand même une revue. Il faisait du Tim Burton, donc le mec, on l'attendait. Et puis Charlie et Chocolaterie, franchement, j'avais pas été fan. Encore adapté du mec qui avait fait le bouquin qui avait inspiré le Grinch. Ouais.
Et deuxième adaptation quand même de ce roman, faut pas oublier.
Ok. Mmh. Et les morceaux musicaux étaient sympas, mais sans plus. En tout cas, c'est vrai que Sweeney Todd, on peut raisonnablement dire que c'est le grand Tim Burton qui est de retour et que c'est un film exceptionnel. C'est une comédie musicale, donc les morceaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser en y allant, tu te dis il y a une succession de morceaux, c'est énervant, mais c'est le principe de la comédie musicale. Forcément, si t'aimes pas la comédie musicale, tu vas pas voir le film. Tu vas voir le film, et même si t'es pas fan, franchement, les morceaux, je les ai pas trouvés énervants, mais du tout.
Non, parce que finalement, ils s'insèrent très, 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 très bien.
Non seulement ils s'insèrent très bien, mais au niveau de la qualité musicale, est assez nickel aussi. L'interprétation est nickel. Et puis les morceaux, que ce soit le morceau à la meringue pour la love story entre les deux tourtereaux, ou le morceau symbolisant la vengeance avec les bonnes percussions et tout est assez coulé, et puis voilà,
et puis surtout c'est les thèmes qui reviennent qui font vraiment évoluer l'émotion du film, c'est ça qui est bien porté justement.
Alors on a affaire à des sacrés duos aussi, puisqu'il faut savoir aussi que ce sont les comédiens eux-mêmes qui interprètent les morceaux. Donc on a un morceau où il y a Johnny Depp qui est en face de Alan Rickman, excellent, dans le Juste Turpin, où il parle
énorme, vraiment leur voix va très très bien ensemble.
Voilà. Et justement, c'est justement ça où je voulais en venir, c'est que les morceaux à deux sont vraiment géniaux. Chacun, parce qu'à un moment donné, il chante sur la fameuse Johanna, qui est la fille prisonnière du juge Turpin, qui l'a piqué, la vraie fille donc de Benjamin Barker. Et ils parlent chacun à leur façon de la manière dont ils voient la fille, c'est-à-dire que l'autre pense qu'elle a niqué, l'autre essaie de la récupérer. Et c'est un morceau à sous-entendu vraiment très très bien.
Gros boulot quand même du sous-titrage.
Ah oui.
Parce que les deux parlent en même temps, ouais. Les deux font des contresens avec des mots qui se croisent, ouais. Il y a un jeu lyrique et monstrueux, et là justement c'est bien rendu, on a l'impression d'avoir un fan sub, tellement que c'est bien construit.
C'est vraiment assez bien. Il y a aussi un duo entre Helena Bonham Carter et Johnny Depp, dont un fameux passage qui tabasse aussi au niveau visuel, où Madame Lovitt, la boulangère, se voit en train de faire sa vie avec Sweeney Todd, et lui il fait la gueule sur les paysages de cartes postales, mais c'est vraiment à vomir, Tim Burton peut les saccager avec le beau coucher de soleil derrière en dégradé, avec des couleurs très flashy à la Willy Wonka dans Charlie la chocolaterie, et tu vois Johnny Depp en train de faire la gueule parce que lui, obsédé par la vengeance, il va absolument pas faire sa vie avec la nana, et la nana...
C'est marrant parce que c'est exactement la même citation que Edouard aux mains d'argent, par ce personnage complètement noir et déprimé qui fait complètement tache sur le paysage de Guimauve.
Le paysage de Guimauve et de banlieue pavillonnaire, tout à fait. Ouais. Donc on a les visuels énormes, le gothique, on sait que Tim Burton est super calé là-dedans et qu'il est assez costaud pour transcrire ça, donc là il n'y a pas de problème. les ambiances presque monochromes et désaturées avec juste ce qu'il faut de sang rouge vif dedans, alors là, voilà, il y a pas de problème, ça fonctionne mais vraiment super bien. C'est une succession de cartes de visuels, on dirait des photos, des peintures, c'est vraiment génial. Au niveau du casting, bon, on retrouve donc Johnny Depp au sommet de sa forme, hein, qui est même dans les films, tu te dis qu'il est vraiment ridicule, ben c'est le personnage qui fait ça, qu'il est aussi bon dans le grotesque que dans la noirceur totale. On retrouve aussi une partie du casting d'Harry Potter, puisque on a le professeur Rogue et Pettigrew, puisque Timothy Squall, c'est celui qui joue l'un des bad guys dans Harry Potter. Pour ma part, je sais qu'on en avait un peu discuté avec Xavier, puisqu'on a vu le film ensemble. Pour ma part, il y a juste le personnage de Sacha Baron Cohen, pour moi, qui
poutre
fait
apparente. Poutre apparente,
ouais. qui fait vraiment tâche, puisqu'on le voit, il a rien à faire dans le film. Enfin, pour ma part, c'est un personnage qui est complètement décalé par rapport au reste, et tu te dis, il est pas inintéressant, mais c'est totalement gratuit. C'est l'effet que ça m'a fait. C'est le personnage. En plus, il en fait des tonnes. Bon, après, quand tu prends Sacha Baron Cohen dans ton casting, tu sais exactement ce qu'il va faire avec un accent,
avec son
italien,
accent italien,
coupé au couteau. Mais tu dis, bon, tu te marres.
Bravo, jeu de mots.
mais tu te marres, mais tu te dis, mais c'est ça fait quoi là-dedans, quoi, c'est ça a rien à faire là-dedans. Et voilà, bon, c'est pour moi, c'est un film exceptionnel, c'est une putain de claque dans la gueule, à la hauteur de la déception que t'avais, enfin que moi j'avais eu en voyant les précédents films de Burton. Et là, franchement, c'est un grand film, c'est sombre, c'est tragique, c'est pictural, c'est la fin. C'est une comédie musicale qui avance assez lentement, donc tu peux t'attendre aussi, en ayant peur avant d'y aller, tu te dises, bon, les principes des comédies musicales, c'est allégorique, tout ça, c'est tout ce que tu veux. Donc la trame de l'histoire, bon, c'est un peu cousu de fil blanc, quoi. Ben la dernière partie, voilà, il y a tout qui se passe dans la dernière partie, tu vois, et puis tout ce qu'il faut de violent, de gore. Il y a certaines personnes que je connais qui ont détourné les yeux, hein. Donc voilà, c'est Xavier.
Personnellement, moi, ce qui m'a surtout vraiment impressionné, c'est le travail de citation que fait Tim Burton envers sa propre œuvre. Que ça soit la scène d'ouverture qui vient de Batman Return, que cela soit quand il retrouve ses chères lames et qu'il dit mon bras est à nouveau complet, my arm is complete again. Ce qui est un double jeu de mots en plus, en citation directe à Edouard aux mains d'argent. Il y a même une musique de Batman Return, il y a un vers qui a été repris et dont la musicalité est inversée par rapport au morceau. Il y a plein de trucs comme ça qu'on y retrouve, et en même temps on n'est pas besoin d'être armé justement de toute cette image là pour peu qu'on connaisse un petit peu l'Angleterre victorienne, ou que on ait une fois vu un film sur Jack l'Éventreur, on peut rentrer dedans sans aucun souci. C'est très très bien mené, c'est très sombre. Je veux dire, c'est vraiment très très sombre, et l'utopia de ce côté a des murs trop lumineux.
Alors, deux réserves, si le film est encore à l'affiche, on n'a pas pensé à vérifier avant, ouais. pour ne pas que certains qui s'attendent quand même à ce qu'ils vont voir. Donc, il faut savoir que il y a pas mal de gore, même si c'est du gore gothique, mais c'est pas brutal, mais c'est quand même du gore. Et il faut savoir que ça chante tout le temps. Donc, si vous êtes réfractaire à ce genre de truc, n'y allez pas, parce que voilà. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, on a attendu avant de le chroniquer, mais c'est fait. Le film est sorti depuis pas mal de temps, ouais. Mais il est encore à l'Utopia.
Et ça manque quand même de recettes de tourte à la viande. Donc, toujours à l'affiche, et vraiment, je ne sais pas s'il y a une VF qui aurait été faite, mais à mon avis, c'est pas la peine. Hein. Allez le voir en VO.
Ah non, c'est hors de question.
Retire ce que t'as dit là.
Alors par contre, nous avons, on nous fait signe en régie que nous avons un chroniqueur improvisé aux deux dernières minutes qui a vu un excellent film dont il nous parlait la dernière fois. Le rouge, je crois, le micro
rouge.
qui s'auto-assomme avec le micro.
Et alors je vais faire
ça fait rien, c'est des bonnets neufs.
Les bonnets sont neufs et c'est un petit nouveau dans la radio.
Oui, c'est un petit nouveau. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Sylvain.
Oui. En fait, il y a un super film que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Juno et que ces braves gens ici n'ont pas vu. Et je leur recommande chaleureusement de se ruer avant que ça disparaisse des écrans, parce que il y a déjà des petites salles pour aller le mater. Alors bon, comment dire,
sur l'enfantement, sur la condition de jeune mère.
Oh oui, enfin oui, c'est vrai, mais bon, c'est surtout. Enfin, j'avais rien préparé hein, pour en parler. Alors que dire en deux mots pour donner envie aux gens d'aller voir ce film. Ben, on peut dire que c'est vraiment une bonne ambiance de légère. C'est il y a rien de caricatural. Enfin, c'est les gens sont tous assez rigolos dans leur vie. Bon, il se passe des choses un peu dramatiques, mais c'est pas très grave. Il y a en même temps une caricature assez marrante des Yuppies américains qui vivent. Alors bon, évidemment, d'un côté, donc alors je vais résumer un peu le film peut-être pour que ça soit plus clair.
L'idée, oui.
Alors bon, donc une jeune petite, on va dire une prolétaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire, ils sont vraiment pauvres. Ils ont une petite maison, tout ça. Puis le mec a divorcé 12 fois. Il répare les moteurs le soir sur la table de la cuisine. Bon. Et puis, elle a 16 ans et elle fait crac-crac avec son petit copain et pouf, elle a un gamin. Bon. Alors, à 16 ans, elle se dit, bon, je vais peut-être avorter. Puis non, en fait, ça la gave. Elle se dit, je vais donner mon gamin. Alors, elle regarde les petites annonces et paf, elle tombe sur un joyeux couple de Yuppie. Juste le quartier riche à côté, qui a une très grande maison et qui donc se propose pour récupérer le petit. Voilà, en gros l'histoire du film. Voilà, donc c'est une occasion de plonger dans d'un côté il y a les parents de la petite qui sont là, qui sont bien sympas, qui sont un peu perdus mais qui sont bien gentils. Il y a les gamins qui sont à l'école, qui se font des petites blagues, qui sont assez rigolos aussi. Il y a les Yuppies américains qui sont là, alors la nana est super coincée, la baraque est hyper propre, le mec il a juste une piole pour mettre ses guitares et ses revues et tout, enfin bon. Et dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. Alors bon, les goûts, les couleurs. Peut-être que
voilà, ça après vous serez, hein, après le côté adolescent de la copine qui accompagne justement cette jeune mère permet justement de désamorcer un peu les côtés qui auraient pu tourner dans le pathos ou dans le tragique.
Ah, il y a pas un pet de pathos à un moment ou à un autre. Tout se passe assez bien. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits moments de crise parce que bon, tout se passe pas aussi bien que dans que ça quand même, mais dans l'ensemble, c'est vraiment j'ai trouvé vraiment que le ton était très bien tenu et il y a aucun excès nulle part. Vraiment, je vous recommande si vous pouvez aller voir. Alors bon, si vous êtes un peu anglophone, vous apprécierez, je pense, beaucoup d'aller voir la version originale. Parce que il y a tout un vocabulaire qui est très rigolo à entendre aussi, des petits gamins là qui sont dans leur 16 ans là aujourd'hui aux États-Unis, voilà. Et puis on a un aperçu de la culture des mecs de 16 ans là-bas, quoi, un peu.
Merci Sylvain.
Avec plaisir.
Ouais, tu peux
voir. C'est improvisé, hein. Voilà, vraiment. Excusez-moi, c'est un peu.
C'est à peu près aussi casse-gueule qu'essayer de se raser sans miroir en face.
Ouais, voilà. Ils ont tous leurs papiers. Ils ont bossé toute la semaine. Moi, j'arrive.
Et encore.
Les mains dans les poches. T'exagères.
Et encore. On sait les tasser professionnellement.
C'est des pros. Ils font ça très vite en plus. Mais bon, c'est très bien. Très bien préparé.
Heureusement, Thomas a décidé de foutre un petit peu de couille et d'action.
Ah, il faut signaler aussi que Juno est nommé pour les Oscars demain soir. Hein, donc, bon, c'est pas un petit film, quoi.
Voilà, on parle pas du réalisateur, on parle bien du film.
Ah oui, sans oublier que la petite Juno est vraiment très mignonne. Hein, faut avouer.
Il y a aussi Jennifer Garner dedans qui ne gâche rien non plus.
Ah oui, oui, très, très bien aussi. Ouais.
On saute du coq à l'âne ?
Oui, on jump. Allez, on embraye de suite alors.
Oui.
Alors, Jumper, film de Doug Liman, déjà réalisateur de La Mémoire dans la peau et de Mr. and Mrs. Smith, avec Anakin Skywalker, Hayden Christensen, Samuel Jackson, Michael Rooker, Diane Lane, Jamie Bell, Billy Elliot, souvenez-vous. C'est, voilà. David est un jumper, donc c'est quelqu'un qui est capable de se téléporter instantanément où il veut, sauf qu'il n'est pas seul à posséder cette faculté et qu'une organisation appelée les Paladins veut l'exterminer. Elle veut lui péter la gueule. Voilà, ça c'est le pitch, c'est le film concept par excellence, hein. C'est un concept qui tient sur un ticket de métro, on s'amuse avec ça. Donc vous pouvez déjà imaginer ce que ça laisse augurer. Donc le mec, il est dans son canapé, il a découvert son pouvoir, il avait 15 ans, donc il se dit, tiens, quand on a 15 ans et qu'on veut profiter de son pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On va aux toilettes dans la banque à côté, on repère un peu les lieux pour savoir où se téléporter, puis paf, on prend le drap de sa chambre, on prend les billets, puis on se casse. Voilà. Donc le mec est devenu riche, il habite un loft super grand à New York, il a voyagé dans tout ce qui est possible de voyager dans le monde, c'est-à-dire qu'il va d'un coup d'avion pour... il faut, en fait, pour se téléporter, il faut qu'il connaisse déjà le lieu. Donc il va dans le lieu, il va se téléporter sur la tête du sphinx, il va aller n'importe où, n'importe quand, il est sur son canapé affalé comme une merde, il a la télécommande trop loin, ben, il se téléporte pour aller à la télécommande, donc voilà, c'est... florilège assez vite expédié au début, puisque au début tu te dis bon, il va mettre du temps à apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Bah non, ça va en 10 minutes, c'est bon, il a fait l'expérience de ses pouvoirs, il a grandi, c'est bon, il a mis la main sur la copine qui veut niquer, bon voilà, ça va super vite. Et on apprend aussi assez vite donc qu'il y a des méchants, enfin des mecs assez louches qui veulent exterminer un peu les jumpers. Et donc à la tête de ces fameux paladins, donc Samuel Jackson aux cheveux blancs pyroxydés qu'on voit dans la nuit comme le Luminou. Et donc voilà. Alors le mec arrive à emballer la nana, il lui dit ouais, le Colisée, tout ça, je vais t'ouvrir les portes qui se ferment d'habitude, etc. La faire dans le sac. Et tout s'enchaîne. Ce qui devait arriver arriva, la cohorte de paladins met la main sur le jumper. Et donc voilà. Donc, alors il faut savoir que quand on va voir le film, on s'attend peut-être à un déferlement de pouvoir, à la X-Men, tout. Pas du tout. C'est plutôt un film léger, centré sur le mec qui a la vingtaine et qui s'éclate avec ses pouvoirs. Il mesure pas trop les conséquences. Les mecs sont à sa poursuite. Bon, il arrive à leur échapper une fois. Bon, il en fait pas toute une montagne non plus. Lui, il a quand même des gros soucis à essayer d'emballer la nana. Bon. Alors voilà, c'est des trucs qu'il faut à savoir, film léger. Par contre, c'est que ça pue vraiment la gigantesque bonne annonce pour les deux suites. Ça tu le vois arriver, mais avec gros sabots. C'est, tu dis oh, la belle
trilogie. Pigeon.
Voilà, la belle trilogie qui s'annonce. Alors comme par hasard, il y a des personnages qui sont assez emblématiques, intéressants. Le gamin David a été abandonné par une mère comme par hasard quand il avait 5 ans, et comme par hasard le jumper qu'il rencontre, il a été abandonné par ses parents aussi quand il avait 5 ans. Ah, peut-être qu'il a été abandonné pour ses pouvoirs, on sait pas. Sa mère, elle est peut-être pas étrangère à tout ça, puisque à un moment donné, on la croise en photo sur le mur d'un autre jumper. Tiens, qu'est-ce qu'elle a à voir à faire là-dedans? Samuel Jackson, c'est quand même un illuminé complètement barré qui veut faire la nique à tous les jumpers parce qu'il se dit qu'il n'y a que Dieu qui peut avoir le pouvoir d'être partout à la fois. Mais en même temps, Samuel Jackson, c'est pas vraiment un enculé, c'est pas vraiment un mec qui pourrait buter tout le monde pour un oui ou pour un non. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Tu sens qu'il y a quand même une ouverture. Bizarrement, très peu de personnages meurent à la fin. Conflits sont désamorcés, mais on peut les augurer d'un retour de certains personnages dans les suites. Toutes les questions ne trouvent pas de réponse. Bon. Est-ce que c'était utile de faire autant dans la surenchère pour préparer la suite? Peut-être pas, parce que quand tu sors du film, t'as vraiment l'impression d'avoir dépensé des sous pour avoir une bande-annonce. Par contre, au niveau des bastons, sans pour autant aller dans la putain de baston avec des peines de jumpers de partout, c'est efficace quand même. Hein. Donc le mec...
Oui, Thomas, je crois que tu te fais fesser.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Allô, oui, bonjour.
Oui, c'est ça, Thomas.
Oui, j'ai oublié de faire la vaisselle, qu'est-ce qui...
Non, c'était pour faire la remarque que tu disais que le deuxième jumper a été abandonné par sa famille.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Il n'a pas été abandonné par sa famille a été assassinée.
Oui, mais ça, on l'apprend à la fin du film et on n'est pas obligé de spoiler.
Et voilà, je le dis, c'est tout.
Bon, d'accord, ok. Merci Sabrina.
Ah, au fait, j'avais un doute de me faire fesser pour l'acteur qui joue le rat dans Harry Potter, c'est bien Pete Pettigrew.
Oui, tout à fait, oui.
Ah, ouf. Merci Sabrina.
Je vous en prie.
Ciao, bye. Oui.
Donc je disais voilà, donc les bastons de jumper elles sont sympas, mais on sent que l'équipe technique en garde sous la pédale quand même. Tu te dis bon voilà, des jumpers, forcément il doit y avoir des méchants quelque part, ils doivent s'associer à plusieurs peut-être, il doit y avoir des putains de chorés à faire. Tu les as pas eu dans le premier, t'attends pour la suite. Bon voilà, c'est après ils s'amusent quand même avec le postulat. Donc le mec ils vont ils sont propulsés dans le conflit tchétchène. Ensuite il y a un mec qui se prend un bourre-pif, il atterrit à la banquise, l'autre lui pique un objet super important, il se retrouve sur la tête du sphinx. C'est assez intéressant de ce côté-là. T'es dépaysé, t'as vachement envie de voyager en sortant du film. Bon, ça casse pas les briques non plus, c'est le film parfait du samedi soir, qui est pas raté, qui est sympa, qui est léger. Bon, voilà, c'est un film à voir. Jumper, avec donc Hayden Christensen, il était pas mal en Anakin Skywalker, il est pas mal en David.
Ouais, c'est le spécialiste des trilogies, lui.
Exactement. Oui, sauf que il apparaît dans la nouvelle trilogie Star Wars, mais il apparaît pas dans l'épisode 1, donc il a participé qu'à deux épisodes.
Il va peut-être revenir, alors.
Et je m'aperçois que je fais une erreur quand je dis ça, parce que George Lucas, monsieur, je revisite tous les films que j'ai fait, il apparaît finalement dans l'épisode 6. Dans la nouvelle édition qui remplace en filigrane, tu sais, quand il apparaît dans le monde des Ewoks à la fin, ben c'est lui, c'est plus le vieux avec les cheveux blancs. Donc il apparaît bien dans trois films.
Ça me fait penser que les Bogdanov ont failli apparaître dans Star Wars, vous saviez pas, mais ça se
les
coupe
Bogdanov.
Incroyable.
Les Bogdanov,
ouais. Ils avaient besoin de faire les économies de maquillage.
Oui, voilà. Oh putain.
Bon voilà, on redit, voilà, Samuel Jackson, excellent, Michael Rooker, toujours impeccable, Diane Lane, Jamie Bell, voilà, bah, c'est film sympa, Jumper, qui est sorti mercredi dernier.
Merci quand même Sabrina et Sylvain pour leur participation bénévole et amicale.
Ouais, yes.
Yes, 12h58 minutes 14 secondes et 976 millièmes sur l'horloge atomique de la radio du sport. T'as du volume.
Comment ?
T'as du volume.
Du volume, comment ça ?
Bah, beaucoup. T'as beaucoup.
Beaucoup de papier, beaucoup de séries.
Ah, ouais. D'habitude, je fais 4 pages, là j'en ai 5.
Putain, le travail de retranscription.
Ouais, mais c'est aéré quoi. Enfin, c'est sauf là quoi.
Les gros pâtés.
Alors, on va commencer.
Alors, tout d'abord, des séries inédites. Il y en a cette semaine. On est vachement contents. Ouais, et en plus, pas de la dope quoi. Enfin, disons, d'après les pré-critiques. Tout d'abord, Canal+, c'est jeudi. Et le jeudi sur Canal+, c'est série. Et généralement, c'est série de bonne qualité.
The Company.
Hein. Ouais. Et là, c'est pas The Company. Non,
et
non.
Là, maintenant, non. Elle est carrément pubée dans les arrêts de bus, là, en ce moment. Hein. En passant, on l'a vu.
Laquelle ?
La nouvelle série, là. C'est pas Commander, merde, j'ai oublié le nom. Avec Meryl Streep.
Damages, voilà. Damages. Il a trouvé. Ouais. Non, mais ça c'est intéressant aussi, c'est que bon bah tu l'as remarqué, j'ai remarqué aussi cette semaine, c'est qu'on commence à faire de la pub dans les abribus, enfin les
pubs locaux,
le citer, et ça concerne des séries qui vont passer à la télé. Hein,
oh, ça a déjà eu lieu.
Oui, mais enfin
24,
bon.
Ils ont eu droit à leur campagne de pub quand ils sont passés sur TLT.
Oui, mais 24 était déjà avait déjà une réputation qui le précédait. Hein, donc c'était un
un demi coup d'épée dans l'eau, quoi. Alors que là, Damages, ça ne dit pratiquement rien à personne de ce côté du channel, j'allais dire non, de ce côté de l'Atlantique, hein, parce que c'est quand même une série qui est un petit peu plus spéciale, on va dire, hein. C'est encore une énième histoire d'avocat. Oh, encore, font chier et tout, quoi. Mais, celle-là est servie quand même par une interprète de premier plan. La grande Glenn Close, qui joue le rôle principal de cette série, hein, qui a d'ailleurs obtenu le Golden Globe cette année, hein, pour son interprétation dans Damages. Elle est avocate et toute la première saison est centrée sur l'affaire qu'elle va essayer de démêler. Enfin, l'affaire, elle va surtout essayer de faire tomber Ted Danson, hein, qui joue le rôle d'un patron d'une grosse usine qui emploie 800-900 employés, enfin bon, grosse usine. Hein, et qui fait des trucs pas très clairs, quoi. Disons que pas trop regardant du côté de la loi. Et Glenn Close, au départ, va essayer de le faire tomber avec son assistante Ellen Parsons, qui est jouée par Rose Byrne, et également avec d'autres interprètes tels que Ted Donovan, qu'on connaît un petit peu, Zeljko Ivanek. Il est toujours là quand il faut, de toute façon.
C'est le mec qui jouait dans 24, dans la saison 1. Il faisait un des frères Drazen.
De Ted Donovan ou
Ivanek, c'est le mec qui a le crâne pelé.
Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. C'était c'est toujours d'ailleurs le gouverneur de l'État dans la série Oz. C'est-à-dire, c'est lui qui, à un moment, rétablit la peine de mort. C'est lui qui,
oui,
à un moment.
Une bonne tête pour faire ça, lui.
Donc, si on dit Oz, ben, c'est un des acteurs fétiches de Tom Fontana, qui auparavant avait déjà créé la série Homicide. Donc, on le voit également dans la série Homicide. On le voit également dans un double épisode de la saison 5 de NYPD Blue, qui est, à mon avis, personnel, l'une des meilleures histoires de NYPD Blue. Toute saison confondue, hein, il y en a 12, donc vous avez quand même le choix, hein, vraiment très très grand, hein, dans lequel il joue pas un rôle d'avocat. Lui, on le met souvent dans les rôles d'avocat, de procureur, enfin de mec un peu enculé, quoi, genre toujours le mauvais rôle. Et là, dans le double épisode de NYPD Blue, joue également le rôle d'un père de famille dont l'enfant a disparu. Et bon, ben, ok, on se rend compte que là, c'est également un gros enculé. Enfin bon, on va quand même pas trop déflairer l'intrigue si vous connaissez pas tellement la série. Donc Damages, c'est diffusé par Canal+ à partir de jeudi prochain 20h50. Et il faut savoir que à l'origine de cette série, eh bien, c'est la chaîne FX, qui est un petit peu à l'origine, parce que Glenn Close avait déjà participé à la saison 4 de The Shield, hein, la patronne de Michael Chiklis, hein, dans la saison 4, on s'en rappelle quand même. Et cette chaîne FX avait donc en chantier cette série Damages, et a naturellement pensé à Glenn Close pour interpréter le rôle, parce que bon, bah ok, elle était déjà très très bonne, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Et ça nous donne une excellente série qui a été plébiscitée de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, Damages, c'est jeudi prochain sur Canal+, à partir de 20h50, deux épisodes.
Coupure ?
Attends, on continue avec les
inédits. Non. Tu me bloques à un lecteur CD et tu m'as dit non, tu regardes pas ce qu'il y a dessus.
Qu'il faut que ouais, non mais attends.
Coupure.
Bon, bah alors coupure.
Daddy, people came from far away. Mama left on the porch to the rich folks. My daddy had to work to pay. Alabama, Mississippi, Louisiana, Kentucky, Texarkana, all came to see what they could see. Chasing that long tall tale about the good life. We were told that was up Route 23. Black love got from the coal mines, cancer from the steel. Stole my daddy's life away.
feed those kids and me back in the day. Up Route 23. Well, in the midst of all this bad weather, I want you to know there was always one good thing.
On n'en revient pas.
Ah ouais. Ah ouais.
Là, du sport, il a sorti le disque en or.
Ça tue.
Wow.
Bah, ça tue pour ceux qui connaissaient pas.
Il est à main nue, c'est un philosophe de la main, lui.
Ouais, non, mais c'est un disque qui a quand même 4 ans déjà. Hein, et franchement, j'aurais pas acheté à l'époque de sa sortie parce que payer des CD vachement cher, bon, c'est pas trop intéressant, il faut dire. Hein. Et c'est pas ma politique, mais quand on le trouve en solde à pas cher, là y a pas de problème, on se le prend histoire d'avoir une petite indication comme ça, se dire ouais bon bah ok, on va jeter une oreille. Et franchement, hein, le disque tient vachement la route. Songs from the Crystal Cave. Alors le titre il est à chier. Mais c'est le grand, l'énorme Steven Seagal. Et c'est pas une mouette quand il joue de la guitare lui, hein. Non, franchement, c'est très très bien. Alors il y a
les terroristes ont qu'à bien se tenir.
Ouais, non, mais il y a deux,
dans une cuisine.
Il y a deux styles de musique. On savait déjà qu'il aimait bien le blues et tout. Il a d'ailleurs joué. Il a fait toute une série de concerts avec des très grands noms du blues, hein, avec B.B. King. Il est sincère dans ce qu'il fait et tout. C'est vraiment très très bien, quoi. Il y a beaucoup de morceaux qui ont une teneur blues. On va dire tel que vous pouvez entendre. Là, c'est le blues le plus roots que je vous ai passé. Mais il y a également 4 ou 5 morceaux qui sont plutôt reggae, on va dire reggae raga, avec Lady So, avec Lieutenant Stitchy, des gens comme ça. Enfin bon, Poupa Christopher pourrait mieux vous en parler que moi. Mais enfin ouais, bon, c'est Poupa, pas non plus des chèvres.
Poupa, c'est à 15h, c'est pas de suite encore.
Et c'est marrant parce qu'il a sur la couverture du disque, il a la même tête que sur les affiches de ses films.
Oui, le visage du bonheur. Ouais.
Et d'ailleurs, The Bubba nous conseillait un générateur de films, d'affiches de films de Steven Seagal. Je suis pas encore allé faire un tour, mais on vous le mettra en lien sur la page de l'émission.
Nouvelle série inédite à présent avec une série adapté d'une bande dessinée Marvel, s'il vous plaît. Créée par Jimmy Palmiotti et Joe Quesada, s'il vous plaît.
Voilà. Blade.
Painkiller Jane. Painkiller Jane. Alors, c'est qui? Eh bien, c'est une nana qui travaille pour la DEA et qui se découvre un pouvoir qui est un petit peu le pouvoir, un pouvoir similaire à Wolverine, à savoir le pouvoir auto-guérisseur, quoi. C'est-à-dire que bon, tu lui fous des pains et tout, elle saigne et tout, mais elle s'auto-guérit, elle est assez efficace, on va dire, dans les bastons. Elle travaille pour la DEA au départ et on l'enrôle dans une nouvelle agence gouvernementale pour aller capturer les neuros. Qui c'est ces gens-là, ces neuros, ces bad guys, ces méchants? Ce sont des personnes qui ont été génétiquement modifiées et qui ont des pouvoirs de manipulation, de télépathie, de télékinésie, dont ils se servent bien sûr à mauvais escient. Alors Painkiller Jane, la série a duré une saison, a été annulée par la chaîne Syfy Channel États-Unis. Hein, parce que elle n'avait pas trouvé son public, ou plutôt son public n'avait pas pu apprécier.
Ouais, ils ont toujours eu des échecs là-dessus sur les adaptations live de séries, que ce soit Witchblade, ça n'a pas très bien cartonné à chaque fois.
Witchblade, c'était aussi un problème de personnes, lié au caractère de l'actrice qui interprétait Witchblade et qui avait quelques problèmes d'alcoolisme à l'époque du tournage de la série. Et donc, c'est aussi un petit peu pour ça que Witchblade n'a pas trop marché, qu'on n'a pas voulu donner de suite à cette série. Painkiller Jane donc vaut aussi le coup parce que elle est interprétée pour son rôle principal par Christiana Loken. Haha, oui.
Terminator 3.
Il y a également Alena Huffman, Rob Stewart, Noah Dunby et beaucoup d'autres dans cette série qui est diffusée donc à partir de lundi prochain sur la chaîne Syfy à 20h45.
Alors c'est une série grossement produite, hein, c'est-à-dire il y a pas mal d'effets spéciaux et tout, ça bourrine pas mal.
Oui,
quoi.
Les filles aux États-Unis, ils ont beaucoup de moyens quand ils investissent dans une série, que ce soit pour Stargate, le spin-off et trucs comme ça.
Oui, oui, ou même la mini-série dont je vous avais parlé, Master of Science-Fiction. Hein, il faut dire que c'est.
Enfin, ils savent qu'ils vont les revendre.
Hein. Ils y vont, il y a pas de problème, quoi. Donc Painkiller Jane à partir de lundi 20h45 sur Syfy, et après Painkiller Jane, eh bien c'est là la soirée est complètement Marvel, parce que à 22h25 on vous propose un documentaire qui s'appelle Les Mutants, les Monstres et les Merveilles de Stan Lee, qui est en fait une rencontre entre Stan Lee et Kevin Smith. Quand tu sais que Kevin Smith, tu te rappelles, a également travaillé pour Marvel, puisque bon bah c'était le scénariste de Spider-Man. Hein, il a écrit cette fameuse histoire de Spider-Man qui a duré tellement longtemps qu'il a dû s'arrêter pendant 3 ans pour au bout de 3 ans recommencer pour terminer l'histoire. Hein, les fans, ils étaient fous furieux. Enfin bon, comme c'était Kevin Smith, ils ont un petit peu pardonné. Quoi. Ouais. Et Kevin Smith donc dans ce documentaire à minuit, il y a Spider-Man, mais la série animée. Alors je sais pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle. À mon avis, c'est la nouvelle, celle que t'aimes pas
en
du 3D, tout.
En 3D, en cel shading, c'est horrible.
5 épisodes et à 0h50, c'est la reprise. Mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est assez rigolo. C'est l'émission de télé-réalité Who Wants to Be a Super-Hero.
Oui.
Ah, et là, bon, c'est assez rigolo, quoi. Bon, je peux vous dire que c'est Feedback qui a gagné. Bon, enfin bon, c'est pas mal, hein. C'est assez rigolo, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Même mes gosses ont apprécié, c'est pour vous dire. Hein.
À cette heure-là, ils sont pas couchés.
Ah ben non, mais c'est One Subi Super Hero, c'est rediffusé dans la journée, il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle, hein, Painkiller Jane, c'est à partir de lundi 20h45 sur Syfy. Voilà pour l'inédit. Sinon, FBI Porté Disparu à partir de lundi prochain, inédit également, avec la saison 6 hein, qui démarre. Et avec surtout ouais le retour de Spike. Spike qui est présent dans cette série, James Marsters bien sûr, hein, qui va jouer le rôle de Grant Mars, détective, et qui apparaîtra dans 4 épisodes de la saison 6 de FBI Porté Disparu. On va le voir faire pote avec Jack Malone et tout et toute la bande. Et il faut aussi signaler que dans cette saison 6 de FBI Porté Disparu, le 6e épisode eh bien sera un crossover avec CSI Las Vegas.
Non, CSI.
Ah ouais ?
CSI Las Vegas, on est en France. Alors
c'est pour préparer une bande-annonce, il faut.
Non, si on est en France, c'est Les Experts Las Vegas.
T'as un crossover FBI et CSI. Wow.
Alors le problème c'est que le crossover, on va le voir dans la tranche FBI Porté Disparu, mais qui dit crossover veut dire poursuite de l'aventure, fin de l'aventure dans l'autre série.
Et qui est diffusé par la même chaîne.
Le problème c'est que c'est diffusé par TF1 CSI. Donc voir la deuxième partie du crossover, généralement les chaînes s'arrangent plus ou moins pour le diffuser dans la continuité, à la suite. Hein.
Là, je crains le pire. Donc c'est
là, je crois qu'on va pouvoir courir, quoi.
Oh merde.
Bon ouais, c'est comme ça. Donc un seul épisode, hein, inédit le lundi sur France 2 concernant FBI Porté Disparu. Ce sera l'épisode qui s'appelle Les Enfants Perdus, l'histoire d'enfants disparus et tout.
Et donc le crossover, c'est quand alors, c'est Lenny?
Non, ce sera le 6e épisode. Ah. Bah, je vous tiendrai au jus, en toute façon, quoi. Sinon, il y a des rediffs également, et ça vaut le coup parce que c'est une série qui était passée sur Canal, donc qui n'était pas forcément visible par tout le monde. Hein, et là, c'est une série qui est rediffusée par Teva et qui a duré 5 saisons quand même. Première diffusion sur Showtime aux États-Unis en 2004, c'est The L World. Autrement dit, la série des lesbiennes. Avec quand même du lourd, quoi, au niveau du casting, hein. Jennifer Beals dans le rôle principal. On avait vu Flashdance. Ah oui, Jennifer Beals. Et qu'on a vu également dans Le Grand Pardon 2. Avec Christopher Walken. Ouais, il y a également Karina Lombard, elle qu'on l'a vu, c'est la copine de l'inspecteur dans 4400. Il y a également Marley Matlin. Rappelez-vous, c'est la nana qui joue tous les rôles d'aveugle dans toutes les séries. Cybill Shepherd.
Oui.
Claire de Lune, ouais. Moonlighting, et Elodie Bouchez, qui est également présente dans cette série qui nous conte les aventures de jeunes femmes qui préfèrent les jeunes femmes aux jeunes hommes, ou vieux hommes, dans une communauté à Los Angeles. Voilà, tout est dit, c'est à partir de mardi 23h05. Bon, le ton est quand même traité un petit peu, on va dire, Heavy, donc hein, c'est pas une série à diffuser en première partie de soirée, hein, un petit peu comme Queer as Folk, quoi, en version anglaise, bien sûr, on diffuserait pas ça en première partie de soirée. Sinon,
page 2.
Ouais, ça c'est donc Teva, un mardi prochain, Hell World, et c'est le début, hein, c'est donc ils rediffusent à partir de la première saison. Sinon, Dr House est de retour.
Ouais, on l'a vu arriver avec sa canne.
Bande de chiens. Avec donc l'épisode 11 et l'épisode 12 mercredi prochain à 20h50. Ah, il faut savoir quand même que Dr House est en train de cartonner comme c'est pas permis aux États-Unis, ce qui est assez bizarre quand même. Moi je commence à penser que les ricains sont moins cons qu'ils ont dans l'air. Hein, parce que bon, privilégier une série comme Dr House qui est quand même très spécifique, hein, et qui tient surtout sur le personnage principal du Dr House, sur l'alchimie qui peut exister avec entre le Dr House et le reste de son équipe, et sur les aventures, on va dire, la résolution d'enquête médicale, on va dire, hein, puisque Dr House est un petit peu le Sherlock Holmes de la médecine, hein, c'est-à-dire c'est le meilleur diagnosticien du monde. Dr House, là, il va avoir des problèmes à partir de mercredi prochain parce que bon, il va finir au trou. Et en plus, eh bien, il est en désintox parce que bon, il faut savoir que depuis le début, c'est-à-dire là, on en est à la troisième saison. Depuis le début, il est accro à la Vicodine. La Vicodine, c'est un antidouleur. Hein. Bon, en France, on ne trouvait pas ça. Mais aux États-Unis, c'est pratiquement en vente libre. Hein. C'est un opiacé, hein, il faut dire ce qui est. Et le Dr House, à longueur d'épisode, dans tous les épisodes, n'arrête pas d'avaler des pilules. Et là, justement, bon, dans les derniers épisodes, on voit que ça commence à craindre. Parce que bon, bah, il y a dans la saison 3, depuis le début de la saison 3, il y a le personnage... du flic qui s'est fait humilier par le Dr House, qu'il a laissé avec un thermomètre dans le cul pendant 4 heures dans la salle d'attente, et qui veut se venger, qui veut absolument avoir la peau du Dr House. Ça, c'est le fil rouge de la saison 3 en ce qui concerne la nouveauté, on va dire, hein. Il se disait que durant les deux premières saisons, bon, chaque épisode, c'est un petit peu la même chose. Un patient arrive, on lui décèle quelques symptômes, bon, bah, toute l'équipe se met dessus. Manque de bol au bout de 10 minutes, parce que bon, bah, il faut des rebondissements, quoi, durant l'épisode, parce que ça commande un petit peu les coupures pub aux États-Unis. Donc chaque fois il y a des rebondissements, c'est toujours très très calculé, hein. J'ai pas encore pensé à prendre un chronomètre pour vérifier le timing, mais c'est un timing assez précis en ce qui concerne chaque épisode. Et là, dans la saison 3, on a rajouté une intrigue qui est un petit peu extérieure, hein, avec ce personnage de flic qui va essayer de faire tomber le Dr House. Alors, il faut savoir que cette chaîne est plébiscitée aux États-Unis, qui elle est suivie par plus de 23 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme. Mmh. C'est énorme.
Ouais, parce que l'audience des networks s'effondre actuellement. Hein. Il faut bon, le savoir, depuis 10 ans, ça chute.
Ouais, il faut savoir quand même que c'est diffusé par un des gros networks, hein, c'est la chaîne Fox, hein, qui diffuse ça, et qui sont arrivés à 32 millions de téléspectateurs le soir du Super Bowl. Alors quand on sait que le soir de la finale du Super Bowl, finale de foot américain, c'est là le soir où tout le monde se fout devant sa télé pour voir le match, hein, y a quand même des gens qui se disent « Ouais putain, on chie avec leur foot américain » et ils ont préféré aller regarder Dr House, et ils étaient donc 32 millions. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est mercredi prochain à partir de 20h50.
Ce qui ferait l'équivalent, en fait, ramener la population en France à peu près 5 millions de personnes pour un match de foot. Donc c'est les mêmes audiences que pour une finale de mondial en France.
Ah non, mais il faut savoir que le Super Bowl, c'est suivi par pratiquement la moitié des gens qui habitent aux États-Unis, quoi.
Oui, mais donc, ça fait 150, mon cher Bus.
Non, mais il y a près de 100 millions, on va dire, un tiers, on va dire, il y a 100 millions de spectateurs, hein, qui suivent le Super Bowl.
C'est 5 millions de spectateurs pour un match de foot en France ?
Pour une finale, oui.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup quand tu y penses, mais en même temps, les scores qu'on donne de TF1, ce sont des parts de marché. On donne rarement justement le nombre de spectateurs parce qu'il y a de plus en plus de gens qui zappent de médias, en fait, voilà. Et ça empire avec la TNT.
Ah bah c'est le même phénomène qu'aux États-Unis, en fait.
Oui, tout à fait.
Les chaînes classiques sont en train de perdre.
Se font vampiriser par les chaînes du câble, mais surtout par Internet et par les pré-enregistreurs.
Alors à présent, vite fait sur le gaz, quelques séries policières avec Inspecteur Barnaby. Alors ouais, ça passe le dimanche soir sur France 3 à 20h50, et j'en étais resté aux Inspecteurs Barnaby des toutes premières saisons. Là, ils en sont déjà à la saison 11, hein, quand même, hein, de rien, quoi. Bon, ils tournent moins d'épisodes que les Américains, eux ils s'en tiennent à 8 à 10 épisodes par saison, mais les épisodes sont plus longs, hein, ce sont des
plus ça dure une heure et demie, deux heures.
Ouais, c'est une heure et demie, quoi, généralement. Et là, bah, on peut dire que
au départ on se disait bon bah ok c'est bien gentil, ça rappelle un petit peu la détective de d'Agatha Christie là, comment elle s'appelle,
Hercule Poirot,
non la
là.
Détective
Miss Marple
voilà, le rythme un petit peu Miss Marple, ça dirait bien, c'est à la campagne et tout, regarde,
ouais,
elles sont jolies, vos fleurs dans votre jardin et tout, et votre pot de fleurs vous l'avez acheté où, enfin bon, c'est un petit peu mou, c'est très cool, mais bon, dans les derniers épisodes diffusés, hein, les plus récents quoi, on peut dire que ça commence à bouger, il y a des poursuites en bagnole, il y a des rebondissements, enfin bon, ça commence à bouger quand même pas mal, et dans l'épisode de demain soir, hein, c'est un épisode très très récent, hein, qui date de cette année 2007, il s'appelle La Chasse au Trésor, ça bouge encore plus paraît-il que dans l'épisode de dimanche dernier. Faut aussi savoir que c'est une série qui bizarrement a des fans vachement connus, hein. Orlando Bloom est un fan absolu de la série et Johnny Depp, fan absolu de la série, a demandé s'il pouvait pas participer à un épisode. Donc c'est demain soir à 20h50 avec bien sûr Bergerac, hein, John Nettles quoi, dans le rôle de l'inspecteur Barnaby. On a New York Section Criminelle ce soir à 23h20 sur TF1, c'est la saison 6 donc inédit. Avec l'épisode 16, dernier jour, moins 10, avec là c'est la doublette Chris Knott, c'est-à-dire l'inspecteur Logan, et Julianne Nicholson, et le guest star, qui est d'ailleurs la victime de cet épisode dernier jour, c'est Lee Tergesen, hein, qui est le personnage principal de la série Oz, on va dire, enfin, ouais, personnage qu'on va arriver en premier dans la prison, qui provoque le départ de la série Oz, Lee Tergesen, et on s'amusera de... Ah merde, je trouve pas mon mot, quoi. En fait, c'est une histoire qui est inspirée d'histoires vraies, comme souvent hein, dans New York Section Criminelle. Ouais. Et là, en fait, c'est Lee Tergesen qui arrive au commissariat qui dit « On m'a empoisonné ». Alors donc, ça fait remonter de vieux souvenirs, c'est-à-dire le vieux film s'appelle « Mort à l'arrivée »,« Dead on Arrival ». La version originale des années 50, la version des années 80 avec Dennis Quaid, hein, où le mec se fait empoisonner, et ensuite on voit le reste du film. En fait, c'est un flashback. Hein, comment est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive au commissariat, il dit « je vais mourir, j'ai été empoisonné ». Et là, c'est pareil, sauf que Lee Tergesen est empoisonné au polonium. Ah, ça nous dit quelque chose.
Avec un mec du KGB.
Ah ouais, peut-être. Le deuxième épisode de la saison 4, donc pas inédit, la mort au menu, c'est celui avec Vincent D'Onofrio et Catherine Herb, mais on l'a déjà vu celui-là. Par contre, il est pas mal. Hein. Il y a Chris Penn dedans qui joue le rôle principal. Ça c'est donc ce soir à partir de 23h20. Sinon, Jack Reed, ça c'est sur Ciné Polar ce soir à 21h. Alors Jack Reed, c'est une série qui a été instillée par Brian Dennehy, qui joue donc le rôle de Jack Reed, qui est plus ou moins un inspecteur à la retraite, mais qui continue à aider la police parce que quand il fout le bordel dans sa ville de Chicago, faut pas le faire, hein, putain, non, déconnez pas les gars, quoi. Et réalise également quoi les épisodes donc de ces petits téléfilms. Celui-là, il a cet épisode a une saveur toute particulière. Il s'appelle Massacre en vodka mineur. Alors, il faut savoir qu'il y a Brian Dennehy dans le rôle principal, mais qui n'est pas flic, mais bien sûr il aide les flics et tout, dont le patron des flics interprété par Charles Dutton. Et dans le rôle du bad guy dans Massacre en vodka mineur, on retrouve Peter Outerbridge, Regenesis, Dr David Sandstrom, qui là joue le rôle d'un immigré russe qui fout le bordel en compagnie de toute une bande et tout, enfin bon, il fout le feu aux apparts et tout, il terrorise les gens qui ont voulu témoigner, tout ça, et avec le doublage français, avec le gros accent russe et tout, à couper au couteau et tout, c'est un bonheur, c'est génial. Rien que pour voir Peter Otterbridge avec son doublage français teinté d'accent russe, ça vaut le coup. Voilà pour les séries, donc Jack Reed, je rappelle, c'est également ce soir à partir de 21h sur Ciné Polar. Et à présent, quelques séries de petits films, il n'y a pas de thématique du tout, hein, c'est juste parce que, hein. Bon, Steven Seagal, bien sûr, avec, dès ce soir à 23h20 sur TF6, Le Protecteur, un film de Pucci Leong avec Steven Seagal, qui est pas terrible, 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 on va dire. Demain sur RTL9, RTL9 qui nous fait une bonne soirée, hein, de temps en temps, ça fait plaisir, avec tout d'abord un film déjà multidiffusé, mais on se lasse pas de le revoir, c'est le Peckinpah qui s'appelle Croix de Fer, un des derniers de Sam Peckinpah, avec James Coburn, James Mason, Maximilian Schell. Là ça déboule à fond, suivi d'un excellent film qui a, à mon avis, a été un petit peu laissé de côté, Un élève doué, Apt Pupil, de Bryan Singer, le deuxième film de Bryan Singer en 99, et qui est carrément excellent, c'est tiré d'une nouvelle de Stephen King. Et là c'est génial, hein, génial, hein. Le face à face entre Brad Renfro et Ian McKellen vaut son pesant de cacahuètes, je vous ne dis que ça. Donc c'est ce soir après Croix de Fer, demain soir à partir de 23h05 sur RTL9, Un élève doué de Bryan Singer. Sinon demain soir, eh bien Teva nous diffuse Jackie Brown de Tarantino, hein, là ouais.
Oui.
Là, moi personnellement, bon, j'ai pas vu Kill Bill, alors je dirais pas que c'est le meilleur de Tarantino, mais pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur de Tarantino, c'est celui-là.
Même ceux qui ont vu Kill Bill, Jackie Brown, c'est toujours le meilleur.
Là, franchement, oui, non, hein, le casting en béton, Pam Grier, Samuel Jackson, Robert Foster, Bridget Fonda, Robert De Niro, Michael Keaton, bon, laisse tomber, quoi. Sinon, alors ça, c'est
De Niro, Robert De Niro.
Ouais, De Niro qui fume du crack, ça vaut le coup quand même. sinon, demain soir également, sur Cinépolis. Alors celui-là, je le programme souvent, mais bon, il est très bon. Alors donc c'est normal, sous Walter Hill, hein, 21h Extrême Préjudice avec Nick Nolte et Power Goose, Rip Torn, Maria Conchita Alonso. C'est un western, on peut dire. Bon, ça se passe de nos jours, mais c'est un western comme Walter Hill sait très bien les faire. Bon, il a fait également un western d'obesque, hein, Wild Bill, là, dans les années 90, quoi. Mais là, vraiment, c'est excellent. Nick Nolte, au meilleur de sa forme, en shérif impitoyable, intègre et tout. Là, c'est du très grand, du très grand. Demain soir sur Cinépolar, Extrême Préjudice. Et sur la chaîne Action, la semaine dernière, on avait vu Portée disparue 1, Portée disparue 2, et où est passé le 3? Il est là, il est là, il est là, sur la chaîne Action demain soir à 20h40, celui-là il date de 87, il n'a pas été réalisé par Lance Hall comme les deux premiers, il a été réalisé par le fiston. Ben ouais, on reste en famille, on s'entraîne pour Walker, Texas Rangers, allez, Aaron Norris qui réalise donc, et là le pitch est un peu différent, puisque bon bah c'est bon toujours Chuck Norris, l'ancien du Vietnam, ben ça y est, il s'est échappé de sa prison. Dans le deuxième, il va aider des gens qui sont encore capturés là-bas, quoi, pour les niquer et tout, quoi, pour les faire évader. Mais dans le troisième, bon, c'est bon, il est aux États-Unis, cool, ok. Donc il va pas y revenir, mais si, il va y revenir quand même. Pourquoi ? Parce qu'il apprend que la femme qu'il avait connue là-bas, il la croyait morte, mais elle est vivante. Et en plus, elle lui a donné un fils. Ah, c'est beau. Portée disparue 3, c'est demain soir à 20h40 sur la chaîne Action. Lundi.
Spécial love. Hein.
Ouais, love à fond. Alors là, encore plus love. Avec lundi M6 en troisième partie de soirée qui nous propose L'honneur des gladiateurs, un film allemand, austro-allemand de John Papavassiliou, avec que le casting béton qui tue, Stéphane Hornung, Marion Mitterhammer, Laszlo Kitsch et Tania Wenzel. Alors histoire de gladiateurs et de vengeance. Hein. Ouais. Mais ça cartonne, c'est pas mal. Ça avait été déjà diffusé il y a 3 semaines sur une autre chaîne. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Le film de la semaine. Le film de la semaine, c'est l'occasion de voir Kurt Russell comme vous ne l'avez jamais vu.
En Elvis.
Alors, tout le monde s'imagine, et beaucoup de gens se disent que Kurt Russell a commencé sa carrière avec Elvis, puis New York 1997, donc l'affiliation John Carpenter. Mais peu de gens savent que Kurt Russell était déjà un enfant acteur, spécialiste Disney. Des Disney. Eh oui, et Disney Cinemagic vous propose mardi prochain à 20h30 L'Ordinateur en folie, un film de 1969 de Robert Butler avec Kurt Russell et William Shalert. Je te dis, sur la photo, tu es méconnaissable. Enfin bon, vraiment tout jeune et tout, c'est rigolo. Alors en fait, le pitch est le suivant, hein, en tentant de réparer un ordinateur offert à son lycée, Dexter reçoit une décharge électrique qui transfère à son cerveau toutes les données de l'ordinateur. Alors imagine un ordinateur en 69. C'est les grands machins avec les bandes comme les magnétos,
ouais,
à bandes et tout.
64 kilooctets.
Non, ça faisait 4 opérations, c'est trop génial quand tu es en maternelle.
Attends.
Ah oui, terrible.
Donc l'ordinateur en folie,
mardi prochain sur Disney Ciné Magique à 20h30. Mercredi sur Sci-Fi, on nous propose, et là c'est assez rare pour le signaler, eh bien tout d'abord, première partie soirée avec Superman 3 avec Richard Pryor et Richard Robert.
Ouais,
bon d'accord, ouais, ok. Mais en deuxième partie de soirée, le film Batman, mais l'original avec Adam West et Burt Ward qui a qu'on retrouve après dans la série Batman. Hein, c'est la série psychotronique par excellence. Et là, ben il s'agit du film donc de Leslie Martinson qui a été tourné en 1966 à 22h45 mercredi prochain. Sur la chaîne Sci-Fi.
Mais dans le film, il y a aussi les Pang et les Woof.
Je sais pas, j'ai pas vu.
Il y a un rocher qui bouge et il y a la Batmobile qui se glisse sur le rocher et tout. Et puis il y a un faux cactus.
Ah ouais, dans la Batcave.
C'est assez drôle, les décors bougent. Enfin.
Alors, jeudi, on en parlait un petit peu, justement, quoi, tu vois, ça tombe bien. Sur Comédie à 20h45, pour ceux qui l'ont pas encore vu, Ali G.
In the house.
Tiens, on parlait de Sacha encore une fois.
Ouais. Et jeudi prochain sur TF6, il y a également un spécial Dolph Lundgren. Avec tout d'abord à 20h45 The Shooter, un film de 95 avec Marouchka Detmers, réalisé par Ted Kotcheff.
Premier Rambo, ouais.
Hein, et qui est également producteur exécutif depuis de nombreuses années sur New York District maintenant, quoi, hein, ça y est. Il a sa retraite, le gars, il est tranquille. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, entre parenthèses, je me suis amusé à regarder un petit peu le générique hier des New York District, la dernière saison, c'est la saison 17, hein, qui est programmée tous les vendredis sur 13e rue. Et en fait, quand tu regardes le générique de début, quoi, où t'as les tous les trucs avec les acteurs et tout ça, quoi, je me suis rendu compte que au niveau citation, t'avais plus de producteurs ou de coproducteurs exécutifs en nombre que d'acteurs dans la série pour un épisode. Devine qui s'en met plein les poches, quoi. Alors, je me suis trompé. Donc, Dolph Lundgren, j'en reviens à Dolph Lundgren, donc avec Ted Kotcheff, ouais, 20h45 à 22h25. Là, ça vaut le coup pour ceux qui l'ont pas vu. Et puis bon, c'est un film qu'on peut revoir sans problème. Ne serait-ce que parce que il y a Brandon dedans, dans les griffes du dragon rouge, qui s'appelle Showdown in Little Tokyo dans sa version originale, avec Brandon Lee
et Dolph Lundgren.
Et Dolph Lundgren. Et Kari Hiroyuki Tagawa, qui joue le rôle du méchant.
Ah ouais.
Lui est toujours impeccable. Donc c'est à 22h25, donc jeudi prochain sur TF6.
À un moment donné, il y a une cascade, il y a Dolph Lundgren, il saute par-dessus une voiture avec les pieds en avant, au ralenti, je m'en souviens.
Mais c'est au début, quand ils se rencontrent.
Oui, je crois.
Hein, quand ils vont dans le magasin, hein, ils pètent tout dans le magasin. Ouais. AB1, programme également jeudi prochain, un film de Will Mesa, philippin, qui s'appelle ADN de 97, avec Marc Dacascos.
Je l'ai vu.
Et Jürgen Prochno.
C'est de la merde.
Et on termine par le film de la semaine, le deuxième film de la semaine quand même, c'est sur Cinéfix vendredi prochain à 21h, c'est pour ceux qui regardent pas Law and Order, hein, sur 13e rue, c'est Sheena, la reine de la jungle.
Ouais. Chérie, on réserve la soirée.
Le film de John Guillermin de 84. Alors moi, je vous dis franchement, c'est pas la peine de regarder tout le film parce que bon, c'est assez bousesque, mais regardez juste le générique de fin là, ça vaut le coup quand elle est à cheval, là, génial, impeccable, Tania Roberts. Big respect, voilà.
Yo.
Et on s'arrêtera là et tout. Bah à la limite, pour faire le break, t'as qu'à nous mettre un autre morceau de machin. T'as qu'à nous mettre le morceau. Il a rangé le disque. Là, il a rangé le disque.
Ah. Mets un morceau de machin.
Ah, tu mets le 12 là. Vas-y, mets-nous le 12 là, qu'on rigole un peu quoi. Et le temps que je change.
Tu me donneras le numéro aussi du précédent
le
que
5.
J'ai passé.
Le 5.
Okay. Ah oui, je voulais en parler et c'est Xavier qui me le rappelle. Il y a une soirée drum and bass ce soir, c'est au bikini.
avec des potalous, hein, Red Eyes, SKS, Payo, Kush et Dread Delicious à partir de 23h.
Donc avec Red Eyes, ça risque d'être plutôt cool, ambiant, jazzy, et avec SKS, ça va être plutôt steepy, et Dread Delicious plutôt zone reggae. Donc il y aura toutes les tendances, à mon avis, du two-step, qui sera, du de la drum and bass qui seront représentées.
Tout à fait.
In the
place. Et dans le domaine de la culture, n'oubliez pas l'excellente émission littéraire sur Radio Éphémère tous les mercredis à partir de midi, Fahrenheit
891. Wind up slow when me turn it around. You have to come tomorrow. In case you never know, me start me whole show. Me tell you from start, me no go down low. Let's do it all night from the left to the right. Say my name Steve, you tell me how it nice. It's quite alright, water run from the pipe. I love it like that, but I won't bite. So,
girl, what you really want all night?
Me want the body if you make me feel nice. Why? Tell me what you really want all night.
Me want the bananas if you make me nice.
Me want the body, him want the punani. I mean, do it nice. So,
girl, what you really want all night?
Me want the body if you make me feel nice. Why? Tell me what you really want all night.
Me want the bananas if you make me nice.
Me want the body, him want the punani. I mean, do it nice. Me want the body, him want the punani. I mean, do it nice. I mean, do it nice. I mean, do it nice.
I mean, do it nice.
I mean, do it nice.
I mean, do it nice.
I mean, do it nice.
Je me suis fait avoir comme un bleu et j'ai même rangé le reste et tout le reste. Donc on le fait sans micro. Thomas, s'il te plaît, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Oui, on t'entend pas d'ailleurs.
On m'entend très, très faible, c'est ça?
Oui, on t'entendait très faible, alors c'est pas grave. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses au programme. On a eu une émission placée sous le signe de l'amour. Nous avons eu un compte rendu rapido des Césars. Je m'entends pas parler avec ce fond. Ah, c'est mieux. Les interventions de Sylvain et Sabrina, les interviews de Chaiko pour sa bande dessinée Love Fragment Shanghai, du tigre blanc bien gaulé, de la comédie musicale burtonienne, et pendant ce temps Xavier s'est rasé en direct, de l'ado enceinte, des Jones qui jump, du Steven Seagal qui chante, du super-héros à la télé, du gladiateur avec la vengeance, de Kurt Russell chez Disney, de la nana pas morte de Chuck Norris, du Batman et du cactus, un Dolph Lundgren, du Mark Dacascos torse nu avec un tomahawk et un gros blanc après un CD tout à l'heure.
Nom d'un gâteau sucré pour la Saint-Valentin. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site internet de l'émission. Vous tapez supplément week-end dans votre navigateur web et vous rajoutez MP3 ou FMR à la limite pour être sûr, vous tombez sur le site où l'adresse directe c'est supplémentweekend.tk sans tirer, sans accent. Et en plus, on peut gagner des bouquins si on pose des questions. La suite des programmes sur FMR avec votre cahier sportif de suite à 15h du reggae avec Zarma Farai, 17h du rap avec ça c'est de la bonne viande, donc qui reçoit un groupe, le nouveau groupe local Big Bang, à 18h, 19h Happy Rural avec les petites olives, 21h30 du l'électro n'importe quoi avec l'Acid Rock Experience, 21h30 9 Loves You to Step, et à 23h le potager c'est du live.
On a oublié d'annoncer toujours Alan Lee qui sera en dédicace à la librairie Album le mardi 26 février à 16h30. Nous avons Nicolas Poupon pour Le Cri d'Autruche tome 3, Le Chant du Kangourou, et Frédéric Salcetto pour Ratafia tome 4 dans des coins stoves bizarres. C'est chez très étrange, et qui seront en dédicace donc le samedi 8 mars à 14h30 à la librairie Jules Gilbert.
On sera au premier étage, voilà. Ceci dit, nous on vous laisse. Merci beaucoup, merci à vous, et à la semaine prochaine avec peut-être une autre interview. Ciao, bye bye.
Ciao.